Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui commence. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un hommage d'abord et puis un anniversaire. Reportage lors d'une fresque de l'événementiel avec le collectif des festivals à Rennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview pour annoncer le festival Care Metz, événement féministe, familial et inclusif à Guipry-Messac. Et puis deux recommandations pour samedi 13 mai à la ferme et puis au musée. Bienvenue dans la Rennes.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la Reine !
Vive la Reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info du jour. Aujourd'hui, en deux temps, on a évidemment une pensée pour Armand Soldin, ce journaliste de l'agence France Presse qui a perdu la vie lors d'une attaque russe en Ukraine. Le jeune homme de 32 ans était originaire de Rennes où il a étudié et où vit toujours une partie de sa famille. Le stade rennais où Armand Soldin avait joué pendant 2 ans a tenu à lui rendre hommage, tout comme la maire de Rennes, Nathalie Appéré, et le président de région, Loïc Chesnais-Girard, qui a dit renouveler son soutien à tous les journalistes présents sur le front en zone de combat et qui nous informe au péril de leur vie. La deuxième info retenue pour vous, elle est plus joyeuse, il est question de développement local avec la ferme et brasserie Drao qui fête ses 10 ans ce week-end. L'équipe de la brasserie, implantée à Melès tout près de Rennes, convie le public pour fêter cet anniversaire samedi, direction le lieu dit La Ville en Bois à partir de 14h où on retrouvera la ludothèque itinérante au Bois des Ludes avec ses jeux en bois pour petits et grands. L'après-midi sera aussi rythmé par des visites de la brasserie et des ateliers pour mieux comprendre le processus de fabrication de la bière. Une bière chez Drao qui est 100% locale, artisanale et biologique. L'orge est même produit sur place directement des champs à la chope. Pour ses 10 ans, la brasserie a créé une nouvelle bière, la Dancing Queen, à consommer avec modération, comme ça c'est dit. Et samedi soir, la journée se terminera par un banquet musical pour lequel il faut penser à réserver sa place. Plus d'infos sur le site brasseriedrao.com. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Vous connaissez peut-être la fresque du climat, cet outil pédagogique et ludique pour vulgariser les causes et les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, je vous parle de la fresque de l'événementiel, un nouvel outil qu'a pu tester un petit groupe de professionnels et de bénévoles du secteur, jeudi 11 mai, lors d'un atelier animé par le collectif des festivals et le CROSS, le comité régional olympique et sportif de Bretagne. L'idée, c'est de comprendre pour ensuite adapter le secteur de l'événementiel au changement climatique. Le détail dans un reportage.
Moi, j'accompagne le championnat de France élite de gymnastique artistique à Saint-Brieuc.
C'est pour l'open air parallèle avec plusieurs collectifs de musique électronique rennais, donc le 17 juin. Et je travaille sur la partie restauration de cet événement.
Du coup, moi, j'accompagne plusieurs événements, dont l'Ultra Trail Marin ou le Grand Trail des Vallons de Vilaine.
Moi, j'ai travaillé sur plusieurs festivals, dont Mythos, et je suis là parce que je veux en faire mon métier et le faire plus vertueusement. Voilà.
Et donc, moi, je suis là en tant que régisseur général et organisateur du Don Gigli Fest, festival de musique à Vitré, et administrateur au collectif des festivals.
On a organisé un atelier ouvert et gratuit pour les organisateurs de manifestations culturelles et sportives. Et c'est un atelier qui s'appelle « La fresque de l'événementiel ». Donc un atelier d'intelligence collective très ludique et participatif pour permettre aux gens de réfléchir à l'organisation d'événements sous l'angle des enjeux environnementaux et sociétaux qui impactent les événements, mais aussi qui sont la conséquence des événements. Je suis Cécile Talon, je travaille au collectif des festivals de Bretagne en tant que chargée de mission développement durable.
Comment est-ce qu'on représente ce collectif auprès des auditeurs qui ne le connaissent pas ?
Eh bien, c'est une association régionale d'une trentaine de festivals qui s'engagent en faveur du développement durable et solidaire. Et nous, on les accompagne. Donc on est structure ressources, on fait du conseil, de la formation et on crée des ressources pour les aider dans toute leur démarche de transition.
La date de création du collectif, c'était ?
Eh bien, 2005, les débuts, avec la première charte écrite par 6 festivals fondateurs.
On trouve combien de personnes dans les équipes du collectif des festivals aujourd'hui ?
L'équipe est composée de 6 personnes actuellement. On a nos bureaux à Rennes.
Je connaissais la fresque du climat, il y a la fresque du numérique, il y en a plusieurs qui sont nées comme ça. Là, on parle, enfin, vous êtes inspiré d'un modèle existant. Elle existe ailleurs, cette fresque de l'événementiel, ou c'est une création du collectif des festivals ?
Alors, c'est une création, pas du collectif des festivals, c'est une création d'une quinzaine de personnes qui a eu lieu entre 2019 et 2021, période compliquée pour l'événementiel. Et du coup, cette quinzaine de personnes-là, qui sont des acteurs de l'événementiel responsable et qui gravitent notamment autour du REV, le réseau éco-événements en Pays de Loire. Donc c'est eux qui ont créé cette fresque. Et en effet, c'est, on va dire, une déclinaison, une petite sœur de la fresque du climat. C'est plutôt nouveau qu'on organise cet atelier. En fait, on s'est formé, donc Sévina du Cross-Bretagne et nous au collectif, sur cet outil en début d'année 2023. Pour pouvoir le proposer du coup aux organisateurs qu'on accompagne. Et là justement, cette fresque de l'événementiel, elle est en phase de développement avec la formation de plusieurs dizaines là, d'animateurs sur toute la France.
Vous avez cité le CROSS, je détaille juste le sigle, le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne, qui est donc avec vous sur cette proposition de fresque de l'événementiel. Comment ça se déroule sur plusieurs heures déjà, avec un petit nombre de participants, et est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça se déroule ?
Alors, un atelier fresque de l'événementiel, ça se déroule sur 3 heures minimum, avec au maximum une quinzaine de personnes. L'idée, c'est de les mettre par équipe de 4 à 7 personnes. Chaque équipe est autour d'une table et a pour mission de placer des cartes sur une fresque pour mettre en lumière les mécanismes de cause-conséquence des événements et des impacts écologiques. Donc globalement, on accueille le groupe, on explique un peu le concept, mais très vite, on leur donne des cartes dans les mains. Chacun les lit et en fait, ils doivent ensuite les placer sur une grande feuille de papier blanc, et s'ensuit une phase de créativité qui permet l'appropriation par chacun de ce qu'il a compris, et aussi ses sources de débat. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de parler de différentes manières de faire des événements.
On donne des exemples de ce qu'on peut lire sur ces cartes ?
Oui, alors il y a une carte qui s'appelle définition du concept. Il y a des cartes programmation, restauration, communication. Il y a également des cartes qui vont toucher à tout ce qui est pollution, perte de biodiversité, dérèglement climatique. Donc des choses pas très joyeuses. Mais il y a aussi des cartes qui ont la couleur verte et qui abordent la notion de solution par rapport à tout ça.
Quel est le profil des gens qui, pour le moment, la répondent présents à cette proposition ?
Eh bien, il y a des organisateurs, organisatrices de festivals et d'événements sportifs, de compétitions, des événements qui peuvent avoir des petites jauges à 100-200 personnes et des gros événements de plusieurs milliers de personnes. Là, dans le groupe, il y a des professionnels, il y a des bénévoles, il y a des personnes en recherche d'emploi. Donc, avec tous l'envie de travailler dans l'événementiel responsable.
Citez les principales causes qui génèrent la carte 33, impact sur la biodiversité.
Nuisances locales,
production de déchets,
éventuellement le déplacement.
Les énergies carbonées, de manière générale.
Et si vous remontez dans cette zone-là ?
Le choix du site,
un impact direct sur la biodiversité potentiellement.
Bonjour, donc Théo, je suis organisateur au Don Jiggy Fest, festival de musique à Vitré, et également coprésident au collectif des festivals, donc qui est en Bretagne. Et aujourd'hui, je suis venu du coup sur un atelier qui est la fresque de l'événementiel. Donc l'objectif était de voir effectivement cette déclinaison, puisque j'avais réalisé effectivement avec le collectif des festivals la fresque du climat. Et donc je voulais voir comment c'était articulé au niveau de l'événementiel par curiosité, puisque effectivement je suis organisateur de festivals.
De quelle manière est-ce que le festival Don Jiggy Fest à Vitré peut-être a déjà un intérêt pour cette question de l'adaptation au changement climatique ?
On est adhérent au collectif des festivals depuis maintenant plusieurs années. On a notamment signé la charte Drastic en plastique, qui est un objectif d'éliminer l'intégralité des plastiques à usage unique de notre fonctionnement, donc avec un plan d'action sur 3 ans. On a également, bien sûr, tout le volet gestion des déchets, On a commencé cette année à travailler sur le volet mobilité, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on sait que la mobilité représente 80% de l'impact environnemental, en tout cas carbone, des émissions de CO2 dans le milieu de la culture. Et puis, il y a aussi la question de la jauge qui rentre en question en fait, dans l'organisation d'événements, puisque bah, plus on a de personnes, plus on a de déplacements, notamment des festivaliers, et donc des émissions de CO2 plus importantes.
C'est combien de festivaliers déjà, le Don Gigi Fest ?
On est sur 8000 festivaliers sur le week-end, en moyenne.
Vous avez appris quoi aujourd'hui ?
Eh bien, rencontrer d'autres personnes du secteur que je ne connaissais pas dans la ville de Rennes. Et puis, au niveau de la fresque donc de l'événementiel, il n'y a pas de grande surprise, puisque je suis déjà personnellement et professionnellement pas mal impliqué dans le changement climatique et la gestion de l'environnement. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir comment c'est articulé au niveau de l'événementiel en particulier.
Il y a aussi la question de la programmation qui peut revenir selon qu'on programme des gens qui viennent de loin ou localement, voire de la région. Vous avez fait des choix là-dessus ?
Donc moi, je m'occupe pas de la programmation du festival, mais effectivement, c'est une question sur laquelle on travaille et on essaye de travailler de plus en plus, donc sur la mobilité et puis aussi pour l'intérêt de faire vivre son territoire, de prendre des groupes qui peuvent être locaux, même si bien sûr, il y a des groupes qui viennent d'ailleurs. C'est aussi de réfléchir sur est-ce que ces artistes-là sont déjà en tournée dans la région, dans le pays. Aussi les inciter sur la mobilité. On a travaillé notamment sur la forte incitation de certains artistes à se déplacer en train plutôt qu'en voiture ou qu'en avion. Parfois c'est bloquant, parfois c'est des négociations à mener, parfois c'est plutôt bien vu par les artistes. Donc le travail continue sur ces démarches-là.
On peut redire qu'il y avait cette année, c'était au printemps, c'était en avril, non ?
C'est ça, c'était en avril, donc le mois dernier. Il y avait Diziz, Suzanne, Highlight Trab, Romeo Elvis, il y avait Tromer, Mead, Elena Hoff, Jennifer Cardini, voilà, pour les principaux.
Peut-être élargir la discussion sur le collectif des festivals et la question de l'environnement qui est centrale dans votre projet depuis presque 20 ans maintenant. Oui. Quels sont vos axes d'action principaux dans l'association ?
Il y a plusieurs axes de travail. Il y a déjà informer, fournir de la ressource, fournir du conseil, réussir à mobiliser les gens et à permettre les échanges de pratiques, les retours d'expérience. Ça, c'est hyper important. Donc l'atelier qu'on fait là en est un bon exemple. Les gens viennent pour se parler en vrai, pour échanger des idées. La formation, c'est un autre volet, parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire monter en compétences pour être, on va dire, à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi tout ce qui est expérimentation, c'est-à-dire comment nous, on peut être un laboratoire d'idées, comment on peut accompagner des événements qui ont envie d'innover. Innover, ça ne veut pas forcément dire se développer et croître, mais au contraire, comment on peut peut-être aller vers des événements moins impactants sur l'environnement en revoyant le format, la jauge, les façons de faire.
L'une des grandes questions sur le changement climatique et l'adaptation de toute la société, mais y compris l'événementiel à ce changement climatique, c'est est-ce qu'il faut transformer ou parfois renoncer ? Vous vous êtes surtout axé sur la partie transformation, ou il peut aussi parfois être question de renoncement sur, je pense à faire venir des artistes ou des invités de très loin, où est-ce qu'on organise son événement ? Il est question de renoncement ?
Bien sûr, il est question de renoncement. Alors, c'est vraiment le cumul des solutions qui va nous permettre d'avancer dans le bon sens. Donc, il y a évidemment des solutions pour atténuer des nuisances ou des effets négatifs des événements. Il y a tout un tas de solutions pour s'adapter aux conditions dans lesquelles faire des événements. Il y a des solutions plutôt innovantes, d'autres qui sont connues mais qu'il faut maintenir, et c'est pas toujours évident. Donc concrètement, il y a un enjeu de diminuer les impacts carbone, mais aussi travailler sur la question des déchets, éviter les pollutions évidemment, et toute la dimension sociale, sociétale. À la fois les gens qui font l'événement, les publics d'un événement aussi, quelle utilité sociale ont les festivals et les événements. Et puis l'ancrage territorial aussi, comment faire des événements qui soient bien impliqués sur leur territoire. Et j'aime bien, moi, dire que toutes les actions comptent, mais ne se valent pas.
Ce qui est le plus impactant sur les questions climatiques quand on parle d'événementiel, c'est le transport, non des...
Tout à fait. Les transports, ça génère, alors selon les événements, on va dire de 60 à 90% des émissions de gaz à effet de serre de l'événement. Donc c'est clairement le gros levier pour la décarbonation. Après, il y a quand même l'alimentation, parce qu'on aime bien manger dans les événements. Donc il y a l'alimentation qui voilà, est un secteur qui, de toute façon, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a aussi des problèmes de déforestation, évidemment, par rapport à ça. D'autres thématiques comme les questions de la gestion de l'eau, des déchets, du numérique aussi. Donc ça va être voilà, plein de thématiques sur lesquelles il est urgent d'agir aussi.
Est-ce qu'il y a des temps forts à annoncer à venir pour le collectif des festivals, sachant que là on va arriver dans le dur de l'événementiel à la belle saison?
Alors le 12 mai... C'est là, ce sont les bravos, les trophées des festivals qui n'attendent pas demain. Donc ça, c'est des prix qui vont être décernés à des festivals qui ont des démarches remarquables et très intéressantes sur différents thèmes de la transition écologique et de l'inclusion. C'est co-organisé avec le Rêve et avec le pôle de Pays de Loire. Donc c'est à l'échelle de deux régions, Bretagne et Pays de Loire. Et ça va être super, c'est une première pour nous, donc ça va être voilà, chouette de remettre des prix et de valoriser vraiment tout ce qui est fait. Et puis sinon, la grande saison des festivals commence et s'annonce plutôt bien, après une année de reprise 2022 qui a été intense, je dirais, pour les organisateurs. Et les publics vont être contents de retrouver les événements et ça va être réciproque, je crois.
Il n'y a que des cartes rouges pour le moment, parce que les vertes ne sont pas positionnées. Ce sont les solutions. Okay. Alors, voilà. Donc, il y en a beaucoup ici, mais l'idée, c'est que vous en choisissiez 5 à 10, voilà, collectivement, et que vous les positionnez par rapport, justement, aux problématiques que vous avez identifiées et apporter les solutions pour donner une note optimiste.
La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire demain ?
Allez, moi, carrément, demain, parce que c'est réellement demain, même tout à l'heure, j'ai une réunion pour ça, la restauration durable.
Moi, je choisirais la sobriété des consommations parce que ça englobe la consommation d'énergie, donc tout ce qui est électricité, gaz, essence, mais aussi c'est appliqué aux autres consommations, que ce soit papier, eau, numérique, goodies, aménagement, donc c'est assez global.
Donc, je suis Sévina Péloin, je suis chargée de mission développement durable et sport de nature au comité régional olympique et sportif de Bretagne. Alors, le Cross Bretagne, on est une association, loi 1901, une association régionale, et notre principale mission est de fédérer le mouvement sportif breton. Donc voilà, on est un organe déconcentré du comité national olympique et sportif et on a des feuilles de route sur le territoire. Donc voilà, on met en place des actions sur notre territoire.
Depuis quand est-ce que le développement durable, c'est une préoccupation de ce comité ?
En fait, ça fait déjà depuis plusieurs années, au moins depuis 2007-2008. En fait, ça a commencé par une entrée sport de nature où on accompagnait le développement des sports de nature tout en respectant, bien évidemment, le site où évoluent les sports de nature. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que tous les sports et les disciplines que l'on accompagnait étaient concernés. Donc, on a mis en place une charte que l'on a ouverte à l'ensemble des organisateurs et à l'ensemble des ligues sportives pour pouvoir les accompagner sur une démarche plus vertueuse et éco-responsable sur les événements.
Et alors, culturel ou sportif, on parle de transport, on parle de déchets, on parle d'alimentation, ou est-ce qu'il y a des dossiers un peu spécifiques ?
C'est aussi pour ce pourquoi on a créé cette convention de partenariat avec le collectif des festivals, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de se faire rencontrer les deux secteurs, sachant que les problématiques sont similaires. Après, il y a peut-être des spécificités sur le sport, notamment avec des événements qui peuvent évoluer sur des sites Natura 2000, des espaces protégés en Bretagne, qu'il y a peut-être beaucoup plus d'événements sportifs que d'événements culturels qui sont sur des sites protégés. Mais autrement, les problématiques, je pense qu'elles sont similaires. En fait, l'entrée principale pour les organisateurs, en tous les cas, qui ont signé la charte et qui souhaitent être accompagnée, l'entrée principale, elle se fait par les déchets. Et après, petit à petit, on essaye d'évoluer vers d'autres thématiques qui génèrent beaucoup d'impact carbone sur les événements, donc le transport. Mais après, le transport, voilà, c'est peut-être pas des leviers d'action qu'ils ont dès le début, donc ils savent pas réellement comment faire pour mettre en place les actions. On a travaillé sur les déchets, donc c'est pas acquis, hein, y a encore plein de choses à faire, etc. Mais en tous les cas, c'était la première phase d'entrée. Et maintenant, en tous les cas, moi, dans mon accompagnement, j'essaye de les accompagner sur la restauration, parce qu'ils ont quasi tous de la restauration, que ce soit pour les publics, les athlètes, les bénévoles. Et là, c'est un levier d'action qui est, à mon avis, simple et où on peut facilement changer les comportements.
Est-ce qu'il y a des réticences dans le secteur sportif ?
Il y a un peu de réticence, sachant que la restauration, justement, c'est un peu le poste où on fait, quand on fait un événement sportif, on fait les bénéfices, on fait les recettes. Et donc, il faut se dire que ça peut peut-être, si on fait on change nos comportements pour faire une alimentation plus durable, plus responsable, l'organisateur va penser, au début en tout cas, que ça va lui créer un impact supplémentaire au niveau de ses coûts et du coup réduire ses recettes. Et c'est là tout notre travail de dire que pas forcément en fait.
J'ai l'impression, mais vous allez me dire si je me trompe, que quand on parle d'événementiel, il y a en tout cas une communication qui est plus importante sur le volet culturel que sur le volet sportif. Est-ce que c'est quoi ? C'est un intérêt médiatique qui est moins important ?
Depuis quelques années, le culturel est peut-être plus avancé dans ce domaine-là. Et là, le sportif rattrape réellement son retard par rapport à son intérêt puis son implication dans la thématique. Donc je pense que vraiment, ça prend de l'ampleur. Et puis il y a l'événementiel sportif, mais pas que, c'est-à-dire que les ligues sportives, les clubs sont concernés de par les championnats, les entraînements, les matchs le week-end, etc. Tout ça, c'est de l'événementiel, mais à beaucoup plus petite échelle territoriale, et ils peuvent être accompagnés sur cette démarche-là aussi.
Show must go on, show CHAUD, ça vous dit ?
Ouais.
par World Wild Web, une nouveauté musicale qui a été choisie pour vous par Yann, notre programmateur ici à Canal B. C'est un titre avec 10 autres qui fait partie de l'album Transmutation, sorti le 30 avril. C'est le premier disque de ce one-man band mené par Manuel Ressus, un producteur français qui vit à Berlin et qui se promène là entre house, synth-rock et minimal, parfois en anglais et d'autres en français. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être sur notre site canalb.fr. On va poursuivre l'émission d'information locale avec une interview. Cécile et Marion, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lucie. Je vous présente, vous êtes membre de l'association Mamawez qui organise son festival féministe, ça s'appelle Kermesse et ça se passe les 27 et 28 mai à Guipry-Messac, on est au sud de Rennes, pas très loin. On prend un petit peu d'avance puisque ça se passe dans 2 semaines. On commence par un mot sur l'association Mamawez. Mawez, ça veut dire femme en breton, vous me l'avez dit, hein, sinon je ne le savais pas. Elle a été créée quand cette association ?
Elle a été créée en 2020, juste avant le confinement. Et du coup, ça a commencé surtout avec des ateliers en ligne. Mais c'était pas mal parce que les premiers ateliers qu'on faisait, c'était des ateliers d'auto-observation. Et par l'intermédiaire de l'écran, du coup, ça sécurise vachement d'être chez soi.
Des ateliers d'auto-observation gynécologiques.
Oui, pardon.
On peut observer plein de choses. Là, en l'occurrence, c'était gynécologique. Depuis 2020, vous avez organisé plus de 70 ateliers sur d'autres thèmes que l'auto-observation. Vous avez exploré quelles questions ?
On a fait ce qu'on appelle des détentes rouges et des détentes blanches, qui sont des cercles de discussion féminins et masculins. On a fait des ateliers de découverte des plantes pour prendre soin de soi au niveau gynéco ou autre. On a fait un atelier radical tricot où l'intervenante nous a raconté un peu l'histoire du tricot, en quoi c'était une pratique engagée tout en faisant du crochet. Voilà, on a fait un café mortel. Enfin, pas mal de choses, des groupes de parole aussi sur les relations affectives, etc. Donc assez variés.
Ça fait 3 ans que vous menez ces actions. Vous êtes un groupe de combien aujourd'hui ? Et puis avec quel profil ? Plutôt originaire, ou en tout cas vivant à Guipry-Messac, ou c'est plus large que ça ?
Du coup, on est une douzaine de femmes dans l'asso, plutôt locale, très locale, parce que du coup, vu que les ateliers après ont eu lieu à Pléchâtel, du coup, c'est plutôt les pays de Vallon-de-Vilaine qui ont été concernés, ça rayonnait plutôt sur ce territoire. Et du coup, des femmes très différentes, qui viennent d'horizons différents, mais qui partagent les mêmes valeurs.
Quand on parle de la ville de Rennes, il se passe beaucoup de choses sur le sujet du féminisme. Comment vous vous êtes retrouvée à Guipry-Messac ? Il y a une communauté féministe aussi, c'est votre communauté là, une dizaine de personnes où il se passe d'autres choses.
C'était pas forcément la porte d'entrée le féminisme en fait. C'était avant tout comment on apprend à connaître sa santé, à s'autonomiser. C'était ça le départ. Et après on a dérivé un peu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des questions sociétales et qu'on avait envie de traiter dans notre quotidien. Et puis c'était chouette de se rassembler autour. Enfin du coup il y avait comme un empuissancement qui se faisait aussi et l'envie de faire des choses sur notre territoire. Donc c'est avant tout voilà, c'est ces questions-là, le fait d'être en réseau ensemble et de faire vouloir bouger notre territoire qui nous a mobilisés.
Après Guipry-Messac, c'est l'emplacement du festival. Nous, on est déployés sur un peu dans différentes communes, Pléchâtel, Saint-Malo-de-Filly, il y en a qui sont à Guipry, mais c'est ce lieu-là, le Louxor, qui nous a fait arriver à Guipry-Messac, et c'est pour ça qu'on y fait le festival. C'est un lieu un petit peu incroyable.
Enfin, on le présente alors, ce lieu ancien dancing, ancienne boîte de nuit, mais je préfère ce mot quand même, le Louxor qui abrite aujourd'hui un écolieu et que vous avez choisi pour organiser un festival sur 2 jours, les 27 et 28 mai. Ça ressemble à quoi ? On voit encore qu'il y avait une boîte de nuit ?
Absolument, donc il y a encore les bâtiments où les gens venaient danser, je dis ça, c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans, complètement décoré façon Égypte des pharaons, extrêmement kitsch. Il y a tout un espace extérieur aussi, il y a une communauté d'une vingtaine de personnes qui vit sur le lieu, qui sont en coopérative, qui rénovent une longère et qui ont plein de projets pour cet endroit-là, pour vraiment le réhabiliter et en faire un lieu culturel hyper dynamique. En attendant, pour le moment, c'est un petit peu en reconstruction et ils accueillent régulièrement des événements. Donc voilà, c'est il y aura des espaces intérieurs où il y aura des concerts, des ateliers et voilà, c'est décoré façon Égypte ancienne, etc., pharaon et compagnie.
J'y retourne souvent au bar du Louxor, regarder danser les gens. J'adore, 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 j'adore.
ça nous donne une petite idée. Et donc, les 12 femmes dont vous faites partie se sont mises autour de la table avec l'idée d'organiser un festival. Elle est venue comment, cette idée-là ?
En fait, à la base, on était plus parti sur des ateliers mensuels. On tournait à 4-8 ateliers mensuels, donc c'était assez conséquent, parce que bénévolement, en plus de nos vies. Voilà, donc il y a eu un moment donné, quand la crise sanitaire s'est terminée, nos activités ont pas mal repris à côté, et on s'est soufflé un peu, parce que c'était dur de maintenir le rythme. Donc on s'est laissé une année pour voir un peu comment on pouvait se réorganiser. Et on s'est dit qu'un temps festif, c'était chouette, parce que là, en fait, les ateliers, c'était des personnes qui étaient quand même averties sur les sujets qui venaient nous rencontrer, parce que ça fait quand même peur de rentrer dans un atelier où il va y avoir qu'une dizaine de personnes. Et on s'est dit que ces sujets-là, on aimerait bien les porter à un plus grand public. Et du coup, le format festival, ça nous semblait plus sensé, déjà pour tout ensemble avoir un temps commun. Et puis aussi pour élargir, parce que les gens qui peuvent venir sans faire les ateliers, juste pour participer au marché de créatrices, juste pour les concerts, et du coup ça permet aussi d'avoir un public plus large.
Voilà, c'est ouvrir à toutes les personnes du coin qui ne seraient pas forcément intéressées par ces thématiques. Tiens, je vais aller boire un coup, je vais aller peut-être écouter les concerts qui me tentent, et puis sur place on se rend compte qu'il y a des ateliers qui nous intéressent, et pourquoi pas y participer Voilà.
Le festival, il s'appelle Care Mess. Alors Care, C-A-R-E, le mot anglais pour le soin. Le festival, il se veut féministe, familial et inclusif. C'est peut-être en ça qu'il a une couleur particulière. Il y a déjà beaucoup de propositions féministes, notamment ici à Rennes, mais ça se passe souvent donc en contexte urbain et c'est pas toujours accessible aux enfants. Là, vous voulez vraiment ouvrir cet événement aux parents, aux mères notamment, et à leurs enfants. C'est parce qu'il y a des parents dans le groupe. Comment cette question elle est arrivée ? Elle est politique aussi, cette question.
Exactement. Donc oui, on est quand même pas mal de mamans dans le groupe déjà. Et puis on a vu aussi que quand on organisait les ateliers, il y avait aussi des parents solo qui ne pouvaient pas forcément venir parce que du coup, comment on fait pour garder l'enfant ? Donc là, c'était aussi important pour nous qu'il y ait une garderie sur place. Et puis surtout, ces questions aussi, c'est aussi une question éducative et sociétale. Donc du coup, c'est aussi important à travers les jeux de pouvoir aussi commencer à dialoguer sur des sujets qui sont parfois perçus comme tabous. Et là, le fait de les aborder simplement à travers des jeux, à travers des moments transgénérationnels, ça permet aussi peut-être de remettre un peu de poésie, de dialogue. Et ça nous plaisait beaucoup aussi, parce que sinon c'est très ciblé et du coup on a un public qui est plus fermé, qui connaît déjà tout ça. Et là l'idée c'était c'est un sujet qui peut être léger et du coup on peut s'amuser autour et que toutes les générations soient bienvenues, c'est hyper important.
Vous avez cité un espace garderie, c'est le collectif La Bulle qui sera présent pour s'occuper des enfants, collectif rennais qu'on retrouve sur plein de mobilisations sociales et qui s'occupe très bien des enfants. Le collectif La Bulle sera présent. Vous parlez des thèmes là, qui vous ont un peu travaillé quand on regarde la programmation. Il est question des violences, il est question des corps, mais aussi des luttes, de militantisme. Est-ce que j'oublie des questions importantes qui vous travaillent là, dans ce groupe de 12 personnes ?
Remettre en question des idées reçues sur le corps, sur la santé, sur les relations affectives. On parle d'agisme, c'est-à-dire comment les personnes plus âgées sont déconsidérées ou non incluses, comment les parents solos sont souvent mis de côté, donc d'où la bulle. D'où le fait qu'on a envie de faire venir les personnes qui seraient seules avec leur enfant. On veut pas. L'idée, c'est que ces personnes-là puissent venir. En fait, c'est.
On va peut-être donner des exemples très concrets avec notamment les ateliers que vous organisez durant ces deux journées, les 27 et 28 mai. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc les 12 femmes qui se sont mises autour de la table pour proposer ce festival Kermesse, vous avez des casquettes d'artistes pour certaines, d'éducatrices, de naturopathes ou encore de journalistes, de libraires, de photographes. Vous êtes toutes engagées et vous avez donc concocté une programmation qui est très riche, qu'on peut retrouver en ligne sur votre site internet mamaouez.com, M-A-M-A-O-U-Z. Au programme le samedi après-midi et le dimanche, cette fois de 11h à 17h30, des spectacles, des installations, groupes de parole, ateliers ou encore conférences. On commence peut-être par parler du marché de Créateuris qui a lieu toute la journée du samedi.
Samedi et dimanche.
On va y découvrir quoi ?
Alors, il y a 20 créatrices qui sont là, créatrices du coup. Alors, sur la communication, effectivement, on a parlé de créatrices, mais maintenant, plus créatrices, parce qu'il y a deux personnes non-binaires qui sont aussi, qui font partie de l'équipe. Donc, c'était aussi pour sensibiliser sur ce mot. Du coup, il va y avoir un stand de broderie féministe, deux stands de broderie féministe. Il y a aussi des couturières qui sont présentes, qui vont aussi parler de l'upcycling et du coup, quels matériaux utiliser, notamment pour fabriquer ses propres culottes menstruelles. Il va y avoir de la poterie, il va y avoir de la linogravure, pardon, de la fabrication de papier. On va parler aussi de tout ce qui est cosmétique biologique. On va pouvoir fabriquer son propre macérat. Il va y avoir aussi des libraires. Il va y avoir aussi des illustratrices qui seront là pour proposer des choses aussi qui viennent questionner justement tous les sujets dont on a parlé. Donc voilà, tout ça, ça vient faire écho aussi à la programmation. Elles ont vraiment des particularités aussi qui résonnent bien avec le festival.
Mais il y aura notre super graphiste Gaëlle Dionéan, qui est une artiste qui habite à Saint-Malo-de-Filly. C'est celle qui a créé l'affiche du festival et qui a écrit un livre pour enfants qui s'appelle Caramel. Elle aura son stand et elle donnera aussi un atelier à l'intention des enfants pour reparler de son livre, un peu redécouvrir son univers.
Une très jolie affiche avec plein de détails à découvrir. Je laisserai les auditeurs aller voir en ligne. Donc, on a parlé du marché de créatrices le samedi et le dimanche en journée. Également, durant la journée, matin et après-midi, des choses à voir et à écouter. Il est question d'entresort et d'installation. C'est quoi un entresort ?
C'est du coup un petit format, un format où en fait il n'y a pas un grand public pour assister, c'est quelque chose de très intime. Là en l'occurrence c'est la famille Walili qui vient avec l'entresort Anemos où ils vont venir chuchoter, chanter des choses dans les oreilles des spectateurs, donc ils vont les prendre vraiment un à un. Et il y a aussi un jardin sonore féministe qui du coup on pourra avoir des écouteurs sur les oreilles et se faire susurrer des textes aussi au creux de l'oreille.
Ouais, les deux artistes des Walili, en fait, elles ont leur concept, c'est d'être sous un grand parapluie, entouré de draps. Et en fait, on vient se mettre avec elles sous ce parapluie un peu caché. Et puis, elles nous chantent des chants en polyphonie, comme ça, juste pour deux, trois paires d'oreilles. Et voilà, l'effet est super sympa, tout en se baladant au milieu du festival. Voilà.
On a un horaire pour ces choses à voir et à écouter ?
Du coup, l'entresort Anemos, ça sera le dimanche, tout comme le jardin sonore féministe. Les deux seront le dimanche. Par contre, le cabinet de curiosité de Leslip est à voir tout le week-end. Le tirage au tiro par Circé, ça va être plutôt le samedi. Donc voilà. Et l'espace création sonore, ça sera disponible tout le week-end aussi.
Le festival que vous organisez, on le redit, c'est une première édition. Et il y a surtout une large palette d'ateliers qui sont proposés, puisque c'est un peu avec ça que vous avez commencé d'abord en ligne au moment de la crise sanitaire. Ça dure à chaque fois entre 1 heure et 2 heures et demie. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. On peut peut-être en recommander un pour les enfants, puisqu'ils sont les bienvenus durant ces 2 jours.
Oui, du coup, pour les enfants, alors ça dépend quel âge a l'enfant aussi, parce qu'il va y avoir autant du massage parent-enfant, mais là plutôt ciblé pour les bébés. Pour les plus grands, il va y avoir des lectures qui vont pouvoir être proposées pour éveiller à tout un panel de livres qui ne sont pas forcément communs. Et du coup, pour pré-ado, ado, là, on a des questions intimes que peuvent se poser les parents. Et là, donc, il y a des questions-réponses qui peuvent se faire pour orienter et guider voilà, si besoin.
Un conseil d'atelier là pour les plus grands, les adultes ?
Eh bien, moi je suis, d'ailleurs j'ai moi-même envie d'y participer beaucoup, beaucoup, ce serait de découvrir l'art de l'effeuillage burlesque hein, qui se passe le dimanche entre 15h et 16h30. C'est une forme d'expression qui mêle humour, sensualité et aussi acceptation de tous les corps. Hein, c'est ça aussi le principe de l'effeuillage burlesque. Donc Célia proposera voilà, en toute bienveillance d'apprendre à s'effeuiller, à enlever des vêtements les uns après les autres. Ce sera, voilà, ça se passera à l'intérieur du Louxor, à l'abri des regards, évidemment.
Voilà. Pêle-mêle, je peux citer d'autres thèmes qui seront abordés lors d'ateliers. Il est question de fabrication de culottes menstruelles, de discussions autour de la parentalité solo, d'écriture inclusive, mais aussi de naissance hors structure. Est-ce qu'il faut réserver pour participer à ces ateliers ? L'idée, c'est on vient et on découvre ce qui se passe au moment où on arrive, ou vous conseillez d'envoyer un petit message email ?
il va y avoir les deux solutions en fait. À partir de lundi, on lance les préinscriptions en ligne. Donc il y aura la moitié des effectifs de chaque atelier qui sera disponible en ligne pour déjà pré-remplir les ateliers. Mais on laisse l'autre moitié disponible sur place. Il y aura un tableau à l'endroit de la billetterie où on pourra s'inscrire directement. Donc comme ça, ça laisse à ceux qui ont envie de s'organiser de pouvoir le faire et celles qui ont envie de s'inscrire au dernier moment de pouvoir le faire aussi.
Donc préinscription possible en tout cas à partir du lundi 15 mai sur le site internet mamawez.com, M-A-M-A-O-U-E-Z. Programme très riche, on le redit, car mais ce sont aussi des propositions culturelles, surtout le samedi en soirée, il se passe aussi quelque chose le dimanche. C'est tout public, avec quand même, on débute sur une conférence où il est question d'anatomie, a priori accessible pour les adolescents.
Oui, c'est accessible. En fait, cette conférence, elle parle juste de l'anatomie, mais du coup, suivant le regard qu'ont les enfants, les ados, ils peuvent venir. C'est juste qu'il y a peut-être des éléments qu'ils ne vont pas comprendre, mais il n'y a rien de choquant dans cette conférence, au contraire.
Une conférence performance sur ma vulve, alors pas la mienne, mais a priori celle de Lise Perronti, qui aura lieu à 18h. Ça dure 1h30 le samedi. Et après, de la danse, de la musique, à partir de 19h45.
Oui, c'est ça, avec une programmation très différente, qui représente bien notre nom, Kermesse, le bordel du prendre soin. Bah, c'est aussi un peu le bordel de la programmation. Donc, on passe d'abord... On commence avec du chant, guitare acoustique, après pour enchaîner avec des groupes.
Ouais, c'est ça. Donc Amélie qui va entamer la soirée, elle va faire des chants féministes. Voilà. Ensuite, on sera avec Vilaine qui est un groupe de 6 chanteuses du coin qui démarre en fait cette année. Vilaine, elles font du chant traditionnel. Et ensuite, on aura Argalouve, Vintage et on terminera la soirée avec DJ Palette pour un set. Bien dansant et
festif.
Et bien festif, ouais.
Et le dimanche à 16h30, dernière proposition avec l'ensemble Andorinas.
Tout à fait, ça c'est pareil, c'est un ensemble choral féminin local qui est guidé par l'une de nos membres, du membre du collectif Mama West qui s'appelle Céline. Hein, et donc voilà, ça ce seront des chants portugais et ce sera à l'extérieur voilà, pour clôturer le festival.
Peut-être un mot sur le financement, on parle de la première édition d'un événement, donc le festival Kermesse qui se déroule à Guipry-Messac les 27 et 28 mai. Je le précise, vous ne bénéficiez pas de subventions, on peut parler d'un festival indépendant, on peut vous soutenir avec la participation libre, il y a peut-être d'autres moyens de vous soutenir en rejoignant l'association peut-être.
Déjà les coups de main bénévoles essentiels.
Vous cherchez des bénévoles?
On cherche toujours des bénévoles parce que c'est vrai que là il y a plusieurs postes et du coup ça c'est vraiment les bénévoles qui nous permettent de réussir ce festival. D'ailleurs la plupart des intervenantes qui viennent dans le cadre de cette première édition viennent pour nous soutenir et viennent en tant que bénévoles. Donc ça c'est super, ça a permis vraiment de réunir plein d'initiatives et donc de pouvoir se mettre en réseau. Et ça c'est aussi des choses qu'on est fiers en fait, parce que bah, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a toute cette émulsion sur le territoire. Et du coup oui, on a lancé un appel à dons au départ. Après on a vendu, on vendra encore sur place des tickets de tombola avec notamment une cinquantaine de lots qui sont assez incroyables. Il y a la page sur le site web où on peut regarder, donc du coup ça c'est une façon aussi de nous aider à financer et pourquoi pas remporter quelque chose de sympa derrière. Et aussi le prix libre qui sera bien expliqué à l'entrée pour voir un peu bah, nous avoir une transparence sur l'économie qu'on a eue pour ce festival.
Cécile et Marion, je vous représente. Vous êtes membres de l'association Mama West qui organise son premier festival féministe, féministe familial et inclusif, qui s'appelle Kermesse, Care C-A-R-E. Ça se passe les 27 et 28 mai à Guipry-Messac, au Louxor. On est à une trentaine de minutes au sud de Rennes. Le samedi, ça se passe de 14h jusqu'à au moins 2h du matin. Et le dimanche, de 11h à 17h30. L'entrée, on l'a déjà dit, elle se fait à prix libre. Sur place, il y a la possibilité de manger, de boire pour ceux qui le souhaitent. Et puis, on ne l'a pas dit, mais un camping. L'idée, c'était de sécuriser les spectateurs, le public, de leur permettre de dormir sur place. Tout et c'est fait. Gratuit.
Oui, parce que on est en pleine campagne quand même. On est voilà, le seul moyen de venir, c'est à pied ou en voiture. Donc, on propose aussi aux personnes de pouvoir rester dormir gratuitement, soit dans leur voiture, dans leur camion, ou de planter la tente tout simplement. Il y aura évidemment un accès aux sanitaires, etc. Et on proposera un petit déj le lendemain matin pour ceux qui seront restés dormir. Voilà, prévention avant tout. Hein. Du coup, l'idée c'est de faire la fête en toute sécurité et de pas prendre de risques. Voilà.
La programmation est à retrouver en ligne sur le site internet mamawez.com et puis vous avez une adresse email notamment pour tout ce qui est pré-inscription peut-être sur les ateliers et puis pour vous demander des informations. L'adresse c'est mamawez@protonmail.com. Merci beaucoup.
Merci.
Take left. Walk, walk, walk me home. Let me live my life on home. Crossroads, where we at? You go right, I take. Halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm halfway down the cliff. No way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm
Slope sur Canal B, un morceau à retrouver sur l'album Both Ways Open Jaws qui est sorti en 2011. C'est le deuxième des trois albums du duo indie pop Dan Levy et Olivia Merilati. Il est français, elle est finlandaise et ils ont formé pendant 15 ans un duo à la ville, puis uniquement à la scène, avant de poursuivre séparément sur d'autres projets à partir de 2021. Et c'est l'heure de terminer l'émission d'information locale du jour, la dernière de la semaine, avec deux recommandations pour occuper son samedi 13 mai. On commence par aller à Cesson-Sévigné sur les coups de 14h30, où l'association Thiès Braise, à l'occasion de la fête de la Bretagne, organise une pilerie de places en partenariat avec les associations d'Astoum, qui fête ses 50 ans, et puis la Bouèze. Alors, une pilerie de places, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un événement à la fois technique et festif qui permet de restaurer un sol en terre battue, mais à l'aide des pas des danseurs. Alors ça, c'est prévu entre 19h et 1h du matin au son du bal trad. Et au programme de l'après-midi, donc à partir de 14h30, le public pourra assister à une conférence sur le collectage du patrimoine oral et des savoir-faire, ça c'est à 15h. Un goûter à la ferme est organisé à partir de 16h. Un bal des familles débutera à 18h. Et puis il y a aussi une expo et des ateliers sur le thème de la construction qui sont prévus dans l'après-midi. Si ça vous tente, l'événement se déroule à la la ferme de la Grande Frinière à Cesson-Sévigné. L'entrée est libre à partir de 14h30. Pour plus d'infos, il y a le site internet thiez.brez.bzh évidemment. Deuxième conseil du jour, c'est la traditionnelle nuit européenne du musée de 20h à minuit. Samedi, 5 l'URNS s'associe à la 19e édition de cet événement des musées et équipements culturels rennais qui vont ouvrir leurs portes gratuitement. On retrouve les Champs Libres, mais aussi le FRAC Bretagne, le Fonds Régional d'Art Contemporain, l'Écomusée de la Bintinelle, le Musée des Beaux-Arts et la Criée, Centre d'Art Contemporain. En plus des expositions à découvrir, par exemple celle originale de la collection personnelle de Judith Cacon qui collectionne les lumières de Noël, elles seront là éteintes, c'est à voir du côté de la criée. Et bien, en plus de ces expos, la nuit sera ponctuée de visites libres ou guidées, d'ateliers, de concerts, projections et spectacles. J'ai repéré une drôle d'animation au musée de Bretagne, un gueulomaton où il faut crier pour déclencher la prise de photo. Pour plus d'infos sur cet événement, il y a le site musée-bretagne.fr. Où est Titi ? La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B. Oui.